Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Carlo Acutis, le saint qui touche le cœur de milliers de jeunes, mort en 2006, béatifié en 2020, est une étoile fulgurante dans le ciel de notre génération. Au programme aujourd'hui et par téléphone, nous retrouvons Bénédicte de Lélis. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
C'est une grande joie de vous retrouver. La semaine dernière, vous avez donc évoqué cette belle figure de cette servante de Dieu, Claire de Castelbajac. La sainte de la joie. Aujourd'hui, nous nous tournons vers un autre bienheureux, récemment béatifié, Carlo Acutis. Alors, vous avez écrit une biographie qui se lit également comme un véritable roman que vous proposez donc aux jeunes pour avoir cette vraie rencontre avec, au fond, un bienheureux qui est très, très attachant et qui peut, sans nul doute, parler au cœur de nos jeunes et en particulier peut-être des adolescents. Alors, je rappelle que vous êtes enseignante en théologie, mère de famille, auteur de nombreux livres pour enfants et un livre sur Carlo Acutis. Alors pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous... On vous l'a demandé, vous avez rencontré, je dirais, vous avez été saisie en tant que mère de famille, enseignante, journaliste, par cette figure d'un bienheureux de notre époque.
L'histoire de ce livre est originale parce qu'au départ, je n'avais pas envie d'écrire sur Carlo qui me semblait avoir une vie très facile et j'étais assez jalouse de ce jeune qui, en 16 ans, tout à coup devient saint, alors que nous, nous galérons pendant tant d'années. Et je trouvais quand même que c'était un peu gonflé, qu'il y ait des vies si faciles. En plus, il est assez peu marqué par la souffrance, Carlo. Il a une vie assez joyeuse, assez simple. Et du coup, j'étais au départ un peu... je trouvais ça trop facile d'arriver au ciel, comme vous avez dit si bien, une étoile comme ça qui monte tout doucement. J'étais très jalouse de Carlo. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une petite fille que j'aime beaucoup de mon école, qui souffre de surdité, m'a invitée à déjeuner avec sa maman. Et donc, j'ai déjeuné avec sa maman et cette petite fille est d'un courage renversant. Et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « S'il te plaît, écris un livre sur Carlo Acutis. » Oh, alors, je ne pouvais absolument pas lui dire non. Donc, j'ai un peu bredouillé, j'étais pas très emballée. Et je descends de cette famille très gentille qui m'avait accueillie magnifiquement. Et là, j'ai un coup de téléphone dans la rue des éditions de l'Emmanuel qui me disent « Est-ce que vous pourriez écrire un livre sur Carlo Acutis ?»
Incroyable.
Je ne pouvais pas dire non, évidemment. Et donc, le livre lui est dédicacé à cette petite églantine. Et c'est pour elle, en fait, que j'ai écrit ce livre parce que j'ai lu à travers cette petite fille me l'a demandé.
Quelle belle histoire, quelle belle histoire.
Voilà, j'ai découvert Carlo et en fait, Carlo a fini par me conquérir parce que oui, il a une vie facile, mais c'est un cœur merveilleux, un cœur très tendre, un cœur très bon.
Permettez-moi, Bénédicte, est-ce que Carlo Acutis est venu rejoindre le cœur de cette maman que vous êtes, puisque vous êtes vous-même mère de famille de 4 enfants de 4 à 16 ans? Est-ce qu'il est
vraiment,
venu toucher votre cœur de mère?
Oui, vraiment oui. En fait, il me semble que ce qui est touchant chez lui, c'est que la foi n'était pas un héritage familial et Jésus vient le chercher de manière totalement gratuite par sa nounou, en fait, une jeune fille qui s'appelle Beata et qui le garde, qui est la babysitter, mais comme les deux parents ont un travail très très prenant, Beata passe le plus clair de son temps avec Carlo et Beata est polonaise, Beata a la foi. Et c'est Beata qui introduit Carlo à la foi. Et c'est assez touchant parce qu'on voit que Jésus touche le cœur de Carlo complètement gratuitement, comme Jésus qui saisit les gens dans l'évangile, qui dit « Suis-moi ». Voilà, c'est ça ce qui arrive à Carlo. Et Carlo est notamment renversé par le sacrement de l'Eucharistie, on le sait bien.
Oui.
C'est ça qui va être la lumière de son existence, Jésus présent dans l'Eucharistie. Et en ce sens, il me semble que Carlo nous touche particulièrement. Et j'ai eu un cadeau magnifique en ce début d'année de mois de janvier. J'ai reçu un petit mot, ça c'est la joie des auteurs. J'ai reçu un petit mot d'une maman qui m'a dit « Je voudrais vous dire », elle m'a écrit ça sur Instagram, ouais, là où je suis. Elle m'a dit « Je voudrais vous dire qu'un livre peut changer une vie. Et ce livre sur Carlo, alors c'est pas le livre, hein, c'est certainement Carlo, a changé notre vie avec ma fille », m'a dit cette maman. « Nous sommes retournés à la messe et ma fille demande la première communion ». Alors ça m'a beaucoup touchée, vous voyez, ça vaut toutes les heures de travaux. Et ça montre que Carlo touche et Carlo nous fait réapprendre à connaître Jésus et réapprendre à aimer Jésus.
Alors vous nous montrez aussi par ce témoignage, et merci Bénédicte, que Carlo Acuti, bienheureux depuis 2020, intercède bien aujourd'hui dans notre monde. On peut l'invoquer, on peut le prier.
Alors je trouve qu'il a il a un point commun avec Claire dont j'ai pas eu le temps de parler la semaine dernière parce qu'on avait trop peu de temps, mais ils ont cette espèce de pureté de cœur extraordinaire. On est quand même dans un monde très marqué par l'impureté et la violence. Oui. Et notamment avec la question de la pornographie qui est un fléau. Oui. Je pense qu'il faut que les parents et les grands-parents s'en rendent bien compte, hein, parce que sur les téléphones traînent énormément d'images et nos enfants, on a énormément de mal à quand même gérer ce qu'ils regardent et ce qui est accessible, oui, hélas, à leur regard pur d'enfant. Et je trouve que Carlo, comme Claire, ont cette espèce de grâce, de pureté. Claire plutôt dans les amitiés, où elle va choisir avec beaucoup de fermeté des amitiés franches et des amitiés pures. Et Carlo, avec le monde du web, où on va regarder à la fin de sa vie, il n'aura jamais été là une seule fois sur un site internet, comme il dirait, interdit, parce que alors qu'il n'y avait pas à l'époque tous ces filtres et tout ça, mais Carlo n'y a pas été parce qu'il avait cette espèce de clarté d'âme, de décision pour la pureté. Et il va dire cette phrase très touchante, hein, pour nous et surtout, ouais, pour nous qui sommes vieux, j'ai jamais perdu du temps à faire quelque chose qui ne plaisait pas,
oui,
à Dieu,
oui,
qui est renversant comme phrase quand même.
Oui,
hein,
oui,
évidemment,
oui,
nous juge assez sévèrement. Mais il me semble que Carlo comme Claire sont deux apôtres de la pureté. Et on peut vraiment les prier pour nos jeunes et pour nous-mêmes aussi, parce qu'on est tous marqués par ce temps où on a les visages et les yeux salis par beaucoup de choses qu'on voit, pour demander la guérison, notamment de jeunes qui sont embarqués dans la pornographie, pour demander la libération, pour demander la pureté du cœur. Ça, je pense qu'ils sont des grands apôtres pour notre temps.
En tout cas, vous êtes auteur de ces deux ouvrages consacrés à ces deux figures, saintes figures, cette jeunesse aussi. Vous évoquez ces deux visages et vous rappelez aussi cette pureté des cœurs que Claire de Castelbajac et que Carlo Acuti transpirent et donnent en témoignage. On parlait de la joie qui habitait le cœur de Claire de Castelbajac. On pourrait presque dire la même chose de Carlo. Qu'en pensez-vous, Bénédicte ?
Oui, c'est vrai. Alors peut-être que Carlo, il a moins... Je pense que Claire, c'est vraiment la louange, son charisme. Carlo, c'est vraiment l'adoration. Il est happé par l'Eucharistie. Et j'aime tellement quand son papa lui propose d'aller faire un voyage à Jérusalem. Et Carlo, qui adorait faire des voyages et tout ça. Oui. Carlo, il est enfant unique à ce moment-là, parce que sa maman, elle aura deux petits-enfants, mais après sa mort. Et donc, il était quand même assez gâté comme petit garçon. Et on lui dit, où est-ce que tu veux aller en voyage et tout ça? Est-ce que tu veux aller à Jérusalem? Et il a cette phrase qui contrarie d'ailleurs au départ ses parents. Non, j'ai pas tellement envie d'aller en pèlerinage à Jérusalem. De toute façon, ça sert à rien, puisque Jérusalem est dans le tabernacle.
Et, oui.
Et donc, il a cette espèce de conscience très vive que Jésus est là et que le mystère de la croix, le mystère de Jérusalem, le mystère de la vie de Jésus tout entier est dans ce tabernacle et il est totalement hypnotisé, on pourrait dire, par le tabernacle et par l'Eucharistie.
Quel est son secret ?
Son secret, je pense, c'est d'avoir aimé Jésus tout simplement et de s'être laissé aimer. Il me semble, hein, moi, que c'est puissamment consolant pour nous. Alors, il faut évidemment, pour nous qui sommes plus âgés, on comprend pas pourquoi on met autant de temps, nous, à devenir des saints et que ça a duré si peu de temps. C'est vraiment rageant. On demandera au ciel pourquoi on n'a pas eu le destin de Carlo, je ne sais pas. Mais on voit que, en communiant, Carlo devient saint parce que l'Eucharistie est transformante. Et ça, c'est certain. Et on voit bien que c'est en communiant que Carlo est devenu un saint. C'est l'Eucharistie qui l'a transformé en un saint.
Quel est le premier miracle, le miracle de Carlo, Bénédicte,
alors,
en quelques mots?
Je ne suis pas spécialiste de tous les miracles de Carlo, mais je me souviens d'un qui est un petit garçon aux États-Unis atteint d'une maladie digestive et un curé de sa paroisse possédant une relique de Carlo qui était un morceau de vêtement. Toute la paroisse va prier, on va mettre le morceau de vêtement sur ce petit enfant qui, du coup, va être guéri de sa maladie digestive de manière directe, spectaculaire et très impressionnante. Et donc ça va être le miracle, à mon avis, si mes souvenirs sont bons, retenu pour sa cause de béatification. Mais il y en a d'autres, et notamment, il me semble que dans notre époque où la foi est si rare, le miracle le plus beau, Carlo, c'est de redonner la foi. Il y a d'ailleurs un récit assez touchant d'un monsieur qui va retrouver la foi brusquement devant la tombe de Carlo.
Ah oui.
Il raconte ça dans le procès de béatification. Et je crois que c'est un miracle qu'on peut demander pour nous et pour les jeunes qui nous entourent de retrouver l'émerveillement pour la foi, l'émerveillement pour le Christ. Jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort d'une leucémie en quelques jours, il va être complètement obnubilé par son exposition eucharistique, son exposition sur Internet, où il fait une exposition sur les miracles. Alors, il faut bien imaginer qu'on est en 2006, il n'y a pas toutes ces banques de données que nous avons, nous. Donc, lui, il va dans les lieux, il va prendre lui-même des photos. Ses parents sont très gentils, d'ailleurs, parce que les parents l'emmènent partout. Et il va partout prendre des photos, chercher des renseignements à la bibliothèque. Donc, ça représente un travail considérable qui n'est pas du tout un copier-coller comme on peut
imaginer. Je crois que c'est un travail qu'il y a demandé près de 2 ans.
Voilà, exactement.
Pour préparer cette grande exposition réalisée, au fond, réalisée sur tous ces grands miracles eucharistiques.
Tous les miracles eucharistiques qui, lui, le bouleversent. Et il est d'ailleurs catéchiste, Carlos, qui est assez touchant. Il va aider à des petits-enfants à préparer leur première communion. Et puis, les enfants sont dissipés et tout. Et il leur raconte les miracles eucharistiques parce que lui-même, ça l'a renversé et ça l'a saisi. De dire, c'est vraiment, vraiment Jésus. Et c'est ça qu'il veut transmettre, un nouvel émerveillement pour l'Eucharistie. Et il va faire cette exposition jusqu'au dernier jour de sa mort. Et il y a quelque chose d'assez touchant. C'est que le 4 octobre, l'exposition est inaugurée à Assise. Oui. Et lui, la veille, il se réveille, il se sent pas bien du tout. Ses parents pensent qu'il a la grippe. Et donc, hélas, il ne va pas à l'inauguration de l'exposition. Imaginez, 2 ans pour un jeune garçon. D'ailleurs, parfois, son papa trouvait qu'il passait trop de temps à cette exposition et pas assez sur ses devoirs d'école. Et donc, il va renoncer à aller à l'inauguration de l'exposition. Et puis, tout le monde va s'inquiéter parce que la grippe continue. Et finalement, c'est pas une grippe, c'est une leucémie. Et ils sont complètement suffoqués parce que personne ne s'attend à ce que ce jeune homme plein de santé meure en quelques jours comme ça, emporté par une leucémie.
Vous permettez, on rejoint aussi cette même fin de vie d'une certaine servante de Dieu, Claire de Castelbajac, que vous nous avez présenté la semaine dernière.
C'est vrai, de manière assez étonnante. Ils meurent tous les deux en une semaine de quelque chose de foudroyant qu'on n'attendait pas du tout. C'est vrai.
Ce sont des étoiles filantes.
Des étoiles filantes, oui, exactement.
Alors moi, je vous invite, et j'invite particulièrement Bénédicte de Lillis, auteur de, en fait, cet ouvrage qui se lit comme un roman pour découvrir et rentrer. Pourquoi pas, on peut parler, rentrer en amitié aussi avec Carlo Acquisti et Claire de Castelbajac. On peut donc vous lire et on peut se procurer ce livre et celui de Claire de Castelbajac aux éditions Emmanuel Jeunesse. Merci Bénédicte de Lillis.
Merci beaucoup. Bonne semaine.
À très vite. Au revoir.
À bientôt.